Afrique 21.
Je peux commencer si, avec un peu de background sur l'histoire de Wagner en Centrafrique et l'histoire des relations de Wagner avec l'armée centrafricaine pour encadrer un peu la question. Comme plusieurs d'entre vous savent, Wagner est arrivé en Centrafrique à la fin de 2017, notamment à travers les canaux un canal officiel, en exception à l'embargo que les Nations Unies ont mis sur l'État centrafricain depuis 2013, depuis les derniers coups d'État. Aucun Centrafricain a demandé justement une exception pour accepter une livraison d'armes en provenance de Moscou et aussi des instructeurs russes qui devaient accompagner ces armes et qui devaient accompagner l'armée centrafricaine, les FACA, les Forces armées de la République centrafricaine, sur le terrain en utilisant ces armes. Donc ça, c'était un peu le début des Wagner dans la Centrafrique, en Centrafrique. Et c'était un début qui a suivi pour les premiers mois, comme je disais, les canaux officiels des exceptions à l'embargo autorisées par les comités des sanctions du Conseil de sécurité. Dans ce sens-là, les instructeurs russes venaient ajouter au programme de formation des forces armées centrafricaines qui avait déjà démarré depuis 2 ans et qui était lidéré, était confié à l'Union européenne. Ce programme de formation durait 6 mois et prévoyait aussi des formations sur les droits de l'homme, les droits internationaux et humanitaires. Mais ne prévoyait pas les suivis des forces africaines sur le terrain. Au contraire, les instructeurs russes qui sont arrivés à Bangui, mais un peu dans tous les pays à partir de janvier-février 2018, ils formaient les forces armées centrafricaines sur une période de 3 mois seulement et les accompagnaient sur le terrain. Ça, c'est la grande différence par rapport à toutes les formations que les forces armées centrafricaines, que les FACA avaient reçues par l'Union européenne et par les autres types d'assistance technique qu'ils avaient reçues même dans les années précédentes. Cela a permis aux instructeurs russes de gagner progressivement une présence sur le terrain dans toutes les préfectures du pays et s'établir déjà depuis 2018 avec les FACA dans les mêmes bases la plupart des temps et suivre leur déploiement au-delà de instaurer aussi une présence militaire importante dans tous les pays qui notamment a amené à différents types des conséquences. Entre autres, les négociations parallèles avec les groupes armés qui ont finalement abouti dans les accords de paix en 2019, mais aussi l'exploitation des ressources minérales qui a déjà commencé à l'époque. Tout cet historique, c'était pour arriver un peu aux derniers 2 ans, à la dernière offensive rebelle, de la coalition rebelle avant les élections en décembre 2020. Et les tentatives de coup d'État sur Bangui en janvier 2021, qui ont amené le président Touadéra à demander à la Russie l'intervention en bilatéral des troupes pour repousser la rébellion et justement pour reprendre le contrôle du pays et faire éradiquer les groupes armés qui malgré les nombreux accords de paix, contrôlaient encore les pays. Donc, tout ça nous amène au début 2021, quand l'offensive des forces armées centrafricaines, appuyées par les forces russes et aussi par les forces rwandaises, qui étaient déployées aussi sur la demande du président Todera, et avec un appui, on va dire, marginal de la MINUSCA, de la mission onusienne dans les pays, ont pu repousser la rébellion qui était arrivée à la porte de Bangui et reprend progressivement les contrôles de tous les pays. À partir de là, et sur ça, peut-être je laisse surtout les autres intervenants spécifier un peu plus, s'occuper un peu plus de ce qui s'est passé par rapport aux violations graves des droits de l'homme, du droit international humanitaire et à toutes les exactions qui ont été documentées amplement par les groupes d'experts sur les mercenaires, par les groupes d'experts du comité de sanctions et par des enquêtes indépendantes des différents médias dans les pays. Les forces russes et les forces armées centrafricaines ont eu un rôle clé dans la reconquête, on va dire, du pays. Donc, dans les premiers mois de l'ère, on était perçu surtout à Bangui et aussi grâce à une forte propagande russe dans les pays, dans la capitale du pays, comme les libérateurs, comme ceux qui finalement, après presque 8 ans, avaient seulement ramené l'État centrafricain à occuper les villes principales du pays, à rétablir une présence même dans les endroits plus éloignés et qui avaient éliminé une menace, le groupe armé qui était là depuis longtemps et avec laquelle toutes les autres solutions, les négociations de paix, etc., n'avaient pas abouti à une solution. L'enthousiasme des Centrafricains est malheureusement n'a pas pu vraiment n'a pas duré dans ce sens parce que depuis le premier semestre de l'année dernière, comme je disais, les exactions et les violations des droits de l'homme ont été reportées par différentes sources. Au début, une forte propagande Russie a gardé la plupart des événements sous silence, une forte propagande, mais aussi le fait que les informations depuis le terrain ne ressortaient pas. Il y avait une forte censure au niveau des réseaux sociaux et aussi les téléphones étaient confisqués sur le terrain. Mais à partir de la moitié de l'année dernière, toutes les violences perpétrées par les mercenaires de Wagner avec l'armée centrafricaine ont commencé à sortir dans les réseaux sociaux, en principe, et sur les médias centrafricains et internationaux. Dans tout cela, les FACA, l'armée centrafricaine, a toujours eu un rôle secondaire dans l'offensive qui a libéré les pays. Un rôle secondaire dans le sens que, même s'il était redéployé dans plusieurs villes à l'intérieur des pays depuis 2018, elle n'arrivait pas à défendre les territoires ni non plus à combattre, à s'affronter avec les groupes armés. Normalement, ils sortaient de leur base seulement avec une patrouille de la MINUSCA. Avec les forces russes, les FACA ont suivi, on peut dire, les forces russes dans cette libération, mais la puissance, la capacité de nuisance, c'était surtout de Wagner. Et au début, même parmi les FACA, c'était un point d'honneur, un point de fierté combattre à côté des Russes, parce que les formations que les Russes leur donnaient, c'était évidemment différent de la formation de l'Union européenne, parce que les amener, parce que l'effet d'être des acteurs finalement importants dans la du pays leur donnait fierté, une fierté nationale qui semblait être disparue complètement dans les dernières 10 ans de l'histoire du pays. Mais à partir de la deuxième moitié de l'année dernière, les choses ont commencé à changer sur le terrain. Et c'est ça qu'on a documenté dans notre travail au Crisis Group, dans les derniers papiers qui étaient publiés il y a 2 sur les sites. Ce qui a
Oui,
changé, c'est.
Enrica, juste pour dire, effectivement, on enverra via Afrique 21 les liens vers les différents documents. C'est juste pour prévenir.
Super,
Merci.
super.
Oui.
Ce qui a changé, c'est que la présence, c'est que on commençait encore une fois à être documenté et les Centrafricains ont aussi commencé à en parler assez ouvertement. Les humiliations constantes, les violences que les soldats de l'armée centrafricaine, les effectifs de l'armée centrafricaine et certains officiers aussi sont en train de subir constamment par les mercenaires de Wagner. Ça a changé un peu les relations et est en train de changer les relations entre l'armée centrafricaine et Wagner, etc. Que les rapports de force, malgré des formations, restent complètement en faveur des mercenaires russes. Et les FACA, malgré leur nombre, est grandi exponentiellement dans les derniers 6 mois, à la suite des recrutements très ambitieux faits par l'État centrafricain. ne sont pas formés, ne sont pas préparés, ne sont pas équipés pour être sur le terrain et pour répondre à l'offensive constante, aux attaques constantes qui continuent même en ce moment des différents groupes armés dans tous les pays. Donc, ce qui se passe en gros, c'est que dans plusieurs cas, les soldats centrafricains ne veulent pas combattre, ne veulent pas combattre, ils fuient les champs de bataille pour ne pas se faire tuer par les groupes armés. Et dans ces cas, ils sont sanctionnés par les mercenaires russes avec différentes façons, avec différentes sanctions. Parfois, ils sont même battus, sont humiliés publiquement, pas seulement des soldats, comme je disais, mais aussi des officiers. Et ça crée un mécontentement progressif et qui est en train d'augmenter parmi les forces centrafricaines. C'est seulement il y a quelques jours un autre épisode dans le sud-ouest du pays dans lequel deux FACA, deux soldats de l'armée centrafricaine sont allés dans la base, se sont présentés dans la base des forces russes pour voler certains matériels et ils ont les Russes, les mercenaires de Wagner les ont attrapés et les ont battus au point qu'un des soldats est décédé suite aux blessures. Ça a provoqué évidemment la colère de la population. Et ça, c'est pas un cas isolé. Il y a eu aussi par la presse nationale des rapports de violences sexuelles à l'égard des soldats des forces armées centrafricaines. Et il y a eu différents rapports, différentes allégations de tout type de violences qui continuent. Dans les réseaux sociaux, on commence à avoir du mécontentement croissant parmi les centrafricains. Par le fait que leurs soldats sont exposés non seulement aux violences des groupes armés, mais aussi aux violences et aux exactions commises par leurs partenaires, par leurs forces alliées, comme ils sont appelés par le gouvernement centrafricain de Wagner. Et ça pourrait dégénérer. Donc, il est très important que tous ces types d'exactions soient monitorées, qu'il y ait une présence aussi plus constante d'officiers de l'armée centrafricaine sur le terrain pour documenter ce qu'il se passe, ce qui n'est absolument pas le cas dans ces cas. Qui est aussi les effectifs des FACA, des Africains, puissent aussi recevoir les matériels, l'équipement nécessaire pour faire leur boulot et évidemment la formation. La formation qui, dans les cas du redéploiement suite à l'offensive de l'année dernière, ça s'est réduit à 3, 4 semaines. Toujours liés par les forces russes, mais que c'est évidemment pas suffisant pour transformer un gardien ou un chauffeur qui travaille à Bangui dans un soldat qui peut aller en brousse s'affronter au groupe armé. Donc, sont tous des éléments que je pense c'est important de considérer dans les débats parce que comme il a déjà été le cas dans les passés, la Centrafrique a été un peu les terrains d'épreuve pour Wagner en Afrique subsaharienne et ces dynamiques pourraient aussi se répéter sur d'autres terrains, dans d'autres pays, notamment au Mali ou ailleurs, où la relation entre l'armée nationale et les forces russes sur les champs de bataille évolue dans cette façon. Donc, je termine ici pour ne pas prendre trop de temps, mais je suis bien contente de répondre à vos questions après.
Merci, merci beaucoup
Merci.
Enrica. Merci, c'était passionnant en tout cas sur cet aspect hein, qu'on connaît pas encore bien, qui est finalement la relation entre ce groupe et les armées nationales. Je vais du coup maintenant on a Tatiana qui est connectée.
Ok, merci beaucoup. Donc, et du coup, on va revenir un peu vers la recontextualisation en fait des relations entre la Russie et l'Afrique pour contextualiser un peu tout ce qui se passe avec Wagner actuellement. Globalement, comme on le voit, c'est les relations avec l'Afrique après les chutes de l'URSS reflètent Exactement, de façon à miroir la dynamique de relations de la Russie avec l'Occident. Et le point central dans cette dynamique de relations était la guerre en Crimée, la guerre et l'annexion de Crimée en 2014, donc ce qui a positionné la Russie dans une situation d'une relative isolation vis-à-vis l'Occident et les sanctions économiques qui étaient les conséquences de cette guerre ont poussé également la Russie à la quête de nouveaux marchés sur le continent, etc. Et la coopération aujourd'hui avec l'Afrique, globalement, se construit surtout sur ce volet sécuritaire et militaire, mais aussi dans les secteurs de nucléaire, des mines et d'agriculture. Donc, les pays les plus sollicités dans le cadre, c'est plutôt, voilà, on peut citer CRCA, Mali, Libye, Égypte, Algérie et Soudan. Ce qu'il faut dire, c'est que les modalités de cette coopération d'aujourd'hui sont très différentes de tout ce qui existait pendant l'époque soviétique et la principale différence est dans l'approche basée sur l'usage des entreprises privées liées d'une manière ou d'une autre à l'État russe, donc comme Gazprom, Rosneft, Rosatom, Rosal, Severstal, etc. Et je pense que c'est important d'avoir en tête cette idée pour comprendre aussi le fonctionnement des militaires privés, donc Wagner. Comme je dis voilà tout à l'heure, la coopération d'aujourd'hui est tournée essentiellement vers le secteur privé et ce n'est pas étonnant. Selon le rapport d'experts préparé l'année dernière, donc 2021, pour les Russes sur les relations Russie-Afrique, apporter la paix en Afrique, ça je le cite, pourrait être l'une des priorités stratégiques pour la Russie. Aujourd'hui, la Russie développe et légitime sa présence essentiellement sur la base de cet héritage soviétique. La propagande puise de ce registre du passé en induisant aussi des attentes qui ne seront probablement jamais accomplies. C'est très important de comprendre qu'il y a un décalage, à mon sens, assez énorme et qui n'est pas, je pense, compris suffisamment bien par la population qui demande l'intervention de la Russie. C'est un énorme décalage entre ce que l'URSS était en Afrique et ce que la Russie fait actuellement, et ce que la Russie est actuellement. Et je vais m'arrêter ici un peu pour dire quelques mots sur cette coopération soviétique. Avec les indépendances, l'URSS a noué des partenariats très divers, donc avec des pays qui voulaient rompre avec les pays, les anciens colonisateurs. C'était le cas de Guinée, de Ghana, de Mali, sous la présidence de Modibo Keïta. L'URSS rend une image d'une puissance anti-impérialiste en accordant un soutien militaire au mouvement de libération nationale dans les colonies portugaises, donc en Angola et Mozambique. Pendant toute cette période, l'URSS a construit un système de centres de formation et des petites académies à l'intérieur de l'URSS où on formait à la fois des officiers. On pourrait former des officiers, mais aussi des combattants de base à la guérilla, tout simplement. L'URSS avait formé ainsi beaucoup de militaires. On n'a pas de chiffre exact sur le nombre de militaires formés en URSS, mais on sait à peu près qu'une partie importante du corps des officiers militaires algériens a été formée en URSS. Beaucoup d'officiers maliens ont été aussi formés en URSS. Et en plus de cette coopération militaire, le volet d'aide au développement était aussi très important. L'URSS projetait une image d'un pays qui a réussi à se développer, se moderniser de manière très vite et très impressionnante. Il avait participé dans la formation de spécialistes dans différents domaines, médecins, ingénieurs, électriciens, géologues, etc. Il a construit aussi des établissements d'enseignement en Guinée, au Mali, donc l'école d'administration. L'URSS, donc, laissait une empreinte importante dans l'imaginaire collectif en Afrique, une image d'une très forte puissance qui a su se positionner en tant qu'alternative à la fois sur le plan géopolitique et sur le plan de développement économique. Et donc aujourd'hui, la Russie puise la légitimité de son positionnement sur le continent de cet héritage, de cet imaginaire, alors que les liens de coopération qui se développent actuellement ne sont pas du tout les mêmes, ni dans leur modalité, ni dans leur contenu. Donc, comme je disais, les domaines, c'est essentiellement les domaines militaires et sécuritaires. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais dire quelques mots sur l'approche de lutte contre les terroristes russes qui semble être actuellement promue par les autorités russes comme étant le plus efficace que celle des pays occidentaux. Et la propagande russe exploite énormément les échecs des interventions internationales au Sahel pour promouvoir son propre approche de lutte terroriste. Cette approche est progressivement construite sur la base de l'expérience acquise en combattant initialement la résistance tchétchène, donc dans les guerres russes amenées en Tchétchénie. L'objectif premier, c'était de préserver l'intégrité de l'État russe. Et la brutalité de l'opération militaire, qui a été d'ailleurs bien documentée, était l'une des raisons aussi de transformation de lutte qui était initialement assez localisée à l'échelle beaucoup plus régionale et à la radicalisation des tendances et des positionnements religieux. De manière plus générale, partout où la Russie est intervenue par la suite, y compris en Syrie, donc le modus operandi était focalisé surtout sur cette composante militaire, en mettant l'accent sur les mesures punitives au détriment des approches socio-économiques préventives plus larges, ciblant des causes profondes des insurrections. De manière encore plus générale, pour la Russie, l'agenda de lutte contre le terrorisme est devenu un moyen de compétition géopolitique sur la scène internationale, et il faut dire aussi que la Russie tente de participer à former même l'agenda de la lutte contre le terrorisme par l'intermédiaire de ses diplomates au sein notamment du Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies. Et la Russie consacre aussi beaucoup d'efforts en parallèle à une campagne de propagande présentant à des publics, à l'audience extérieure, notamment en Afrique, ses opérations militaires, donc en Syrie, en Asie centrale et plus récemment en RCA, comme les success stories, comme des réussites à travers des films, les réseaux sociaux, etc. On en sait tous. Et il est assez compliqué de contredire à ce discours dans les médias et de l'opérer parce qu'il est très, très compliqué. Cette propagande, elle alterne à la fois des faits réels avec les fictions, etc. Et aussi, d'une façon, ça on peut le discuter, mais d'une certaine façon, lorsqu'on regarde les situations d'ERSA, par exemple, elle semble d'avoir une certaine visibilité ou moins de stabilité. Mais on ne sait pas ce qui va se passer à long terme. Ce qu'il est important aussi à mentionner, c'est que la vision de la Russie sur le terrorisme, en fait, la perception de lutte contre le terrorisme est construite à partir de son propre lié à la perception de ce qui est terrorisme, qui est vu en tant que menace de l'intérieur, donc une menace pour l'État, pour la stabilité et pour la souveraineté. Et donc, cette vision de lutte contre le terrorisme a été instrumentalisée par la défense politique, on connaît tous comment. Mais ce qui est important à voir ici, c'est que ce projet et ses usages de contre-terrorisme pourraient être particulièrement intéressants pour certains pays au Sahel. Et donc, ces pays ont déjà exprimé par toute une voix agressante des coups d'État des besoins profonds de transformation sociopolitique. Et ces besoins semblent être exploités d'une manière ou d'une autre par le modèle de gouvernance politique ou sécuritaire du Kremlin qui navigue justement sur ces narratifs nostalgiques des régimes comme celui de Sékou Touré, par exemple, en Guinée, ou de Séni Kouché au Niger. Lorsqu'on regarde la situation au Mali, c'est exactement ce qui s'était passé avec l'arrivée et le positionnement progressif de Wagner. Puisqu'il faut dire, lorsqu'on remonte un peu, que les appels et l'intervention de la Russie au Mali ont commencé plusieurs années bien avant l'arrivée de Wagner. À peu près fin 2021, mais je pense un peu avant même. Et je suis presque convaincue que derrière ces appels, il y avait ce groupe de patriotes maliens qui a commencé à collecter les signatures. Ils ont collecté selon eux, plus de 8 millions de signatures en faveur d'intervention de la Russie. Ils ont commencé la collecte de ces signatures en 2016. Et moi, je suis presque convaincue que derrière ces appels et derrière cette démarche, il n'y avait pas de main du Kremlin à l'époque. Aujourd'hui, les autorités maliennes nient toujours la présence des compagnies militaires privées russes sur son territoire. Ils expliquent l'intensification des relations avec la Russie par l'accord de coopération militaire conclu en juin 2019, ce qui pose plusieurs problèmes. Mais je ne vais pas en fait, m'arrêter beaucoup sur ce qui se passe avec Wagner au Mali actuellement. Mais je voudrais attirer l'attention et peut-être on pourrait en parler beaucoup plus à la discussion sur les différentes sur le différent fonctionnement de Wagner, les différents patterns de fonctionnement de Wagner dans plusieurs pays où ils interviennent, notamment au Mali, en RSA, en Libye, et lorsqu'on avait vu avec le massacre à Moua, massacre à cette ampleur-là, et je peux me tromper, mais il semble que ça n'a pas arrivé ni en RSA ni en Libye. Et je pense qu'on peut se poser les questions justement pourquoi. Voilà, je voudrais conclure sur ce point et je vous remercie beaucoup de votre attention.
Merci Tatiana, merci beaucoup pour cette intervention extrêmement intéressante aussi. Je vais passer la parole à Jalal Archaoui qui va nous parler du coup un peu plus précisément de la Libye. Je vous laisse la parole.
Oui, merci beaucoup. Merci à Afrique 21. Je suis vraiment ravi d'être associé à cet événement. Je voulais commencer peut-être mes remarques relatives à la Libye en essayant de démanteler un mythe, le mythe de l'échec russe. Si on regarde les traces de cette notion quand même qu'on retrouve assez souvent, c'est en grande partie dû au fait que au moment où les compagnies privées russes ont fait un petit peu la une des journaux, disons en fin 2019, début 2020, il y avait souvent cette expression selon laquelle Haftar, le maréchal Haftar, donc cet homme fort basé à l'Est et qui ne représente pas l'État libyen, Haftar était, selon les médias, soutenu par les Russes. Et donc cette relation très simple, très carrée d'appui et de soutien et quelque chose qui est vraiment resté dans les esprits. Et c'est à partir de là, la compréhension de ce qui se passe par rapport à la Russie en Libye commence tout de suite à déraper. Donc, je voudrais quand même rappeler que avant l'offensive, la fameuse offensive lancée par le maréchal Haftar en 2019 contre la capitale de Tripoli, contre le gouvernement reconnu par l'ONU et les milices qui le soutenaient. À ce moment-là, le principal soutien pour le maréchal Haftar était réellement le soutien émirati. L'idée de cette offensive s'est cachée en quelques jours grâce aux drones chinois pilotés par l'État émirati. Et la présence de Wagner existait déjà depuis l'année précédente, depuis 2018, mais c'était, disons, une composante relativement secondaire, accessoire dans le dispositif Haftar. Ce n'était pas central, ce n'était pas essentiel. Je rappelle, pour la petite histoire, que l'association très étroite qui existe entre la Russie et le maréchal Haftar, je parle de la Libye post-2011, parce que c'est quand même quelqu'un qui a été formé en URSS dans les années 70 et 80, mais disons dans la Libye post-2011, l'association a commencé en 2014 et l'arrivée de Wagner s'est faite à peu près au milieu de l'année 2018. Et pourtant, jusqu'au moment de l'offensive contre la ville de Tripoli, comme je le disais, les Russes n'étaient même pas présents avec lui, ni au moment de l'offensive en janvier 2019 dans le Fezzan, ni avec lui sur les abords de Tripoli en avril 2019. Et leur apparition s'est faite en septembre 2019. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette période-là, disons de septembre 2019 jusqu'au retrait abrupt, très abrupt, un retrait des forces russes qui avait été décidé d'une manière très unilatérale par le Kremlin en consultation avec les Turcs, mais pas du tout en consultation avec le proxy libyen, pas du tout en consultation avec le maréchal Haftar. Cette décision a été prise vers la fin mai 2020. Durant cette période-là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'échec de Haftar a été converti sous la forme d'une opportunité, sous la forme d'une aubaine par les Russes. Et je parlerai même aussi d'un échec émirati. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est pas parce que le maréchal Haftar s'est cassé les dents au moment où il a essayé de prendre Tripoli que les Russes eux-mêmes se sont cassés les dents. Au contraire, ils ont réussi à se servir de cette expérience déplaisante pour le maréchal Haftar, déplaisante mais pas fatale puisqu'il existe encore. Ils en ont profité pour se rendre beaucoup plus indispensable au maréchal Haftar. Donc c'est vraiment la stratégie, je disons, en tout cas la méthode des Russes, c'est se rendre de plus en plus vitaux pour les interlocuteurs indigènes, dans le cas précis libyen. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'ils sont au service de ces forces libyennes, ça ne veut pas dire qu'ils obéissent à qui que ce soit d'autre que le Kremlin. Et donc ça, c'est intéressant, parce que les bases militaires émiraties jusqu'au début 2020 se transforment petit à petit au fur et à mesure que les Émirats finalement sortent du théâtre militairement, pas politiquement et pas financièrement et pas diplomatiquement, sortent, disons, au vu de leur propre échec, sortent du territoire libyen, les Émiratis sont retirés, etc. Eh bien, l'entité qui récupère ces bases militaires, c'est les Russes. Donc les Russes, durant cette période très importante, une période de défaite, d'échec, d'écrasement du maréchal Haftar en 2020, c'est une bonne période pour les Russes. C'est à ce moment-là qu'ils récupèrent les bases émiraties et aussi prennent certaines bases, comme par exemple la base de Gardabia, qui est aux abords de la ville côtière Sirte, qui est au milieu, réellement au milieu du littoral libyen. Donc, tout ça pour dire que finalement, avant le 24 février 2022, avant le début de l'invasion de l'Ukraine cette année, les Russes possédaient grosso modo quatre bases militaires importantes. Il y a la base de Al-Jufra, qui est au centre de la Libye. Il y a la base que je viens de mentionner, Gardabia, qui est près de Sirte. Il y a la base grande, entièrement aujourd'hui, entièrement russe, entièrement contrôlée par les Russes, qui s'appelle Al-Khadem, qui est à 100 km de Benghazi. Il y a aussi la base de Brakachate, qui est au nord de Sabha. Donc ces quatre bases-là étaient russes, c'est-à-dire contrôlées par les Russes, peuplées par des éléments russes, avant le 24 février 2022. Et au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est toujours là. Donc là, je suis en train de faire allusion à une série d'articles que j'ai trouvé extrêmement malheureux durant le mois de mars et le mois d'avril. Il y a eu un article, même voire deux articles dans le New York Times, un article dans le New Yorker, un article dans le Daily Beast, qui affirmaient, dans un langage pas tout à fait clair d'ailleurs, même grammaticalement, c'était des phrases un petit peu bancales, mais l'idée de ces articles-là, grosso modo, c'est que puisque les Russes mouraient à une vitesse assez effroyable au niveau de leurs soldats sur le sol ukrainien, ce à quoi on assistait, c'était un retrait spontané et quasiment total de tous les personnels russes de Libye. Et cet événement-là appartient à la fiction, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu un retrait radical de toutes les forces russes de la Libye. On pourra parler de ce type de déconfiture, de débâcle, de départ comme ça précipité, que lorsque des bases russes cessent d'être russes. Au moment où des dispositifs entiers, c'est-à-dire vraiment une base aérienne ou une base terrestre, soient abandonnés par les Russes. Et ces événements-là n'ont pas eu lieu cette année. Donc, aujourd'hui, au contraire, vous avez tous entendu parler des avions de guerre qui ont été envoyés par la Russie toujours à la même période, hein, je parle du milieu de l'année 2020. Il y avait à cette époque à peu près 14 avions. Aujourd'hui, le nombre d'avions a cru, il est plus grand. Donc, on va pas du tout dans la direction qui a été de espèce de retrait comme ça en catastrophe qui a été dépeint dans les médias américains en mars, avril de cette année. Il y a eu un événement qui pouvait prêter cette impression. Il y a eu, disons, au début de mars 2022. Environ 300, peut-être 400 qui sont partis d'une manière assez rapide via une base aérienne inhabituelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas traditionnellement utilisée par les Russes, qui est au sud-est de la ville de Derna, qui est pas loin de la frontière égyptienne. C'est une petite municipalité qui s'appelle Martoba. Et c'est vrai que pendant une période de 2 jours, il y a eu comme ça un convoi de 60 véhicules. Peuplés de Russes blonds, à la peau brûlée au soleil, et qui sont partis. Donc, mais je rappelle quand même que la présence des Russes en Libye, il y a, disons, 6 ou 12 mois, c'était environ 3 000 hommes. J'exclus complètement les mercenaires syriens qui travaillent effectivement sous l'égide de Wagner. Je pense que ces Syriens n'ont jamais eu d'importance et ça ne mérite pas qu'on s'y attarde. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le personnel qui est véritablement russe ou dans certains cas serbe. Il y avait grosso modo, il y a disons 6-12 mois, 3 000 Russes en Libye. Aujourd'hui, je pense qu'il y a à peu près, disons, 2 200 ou 2 300. Donc, il y a eu effectivement une soustraction, mais la mission est toujours en cours. Elle a eu de l'importance. Certains aspects de cette mission, je parlais du nombre d'engins volants, a augmenté et le nombre de bases n'a pas changé. Donc, ça, c'est très important. Je veux dire concrètement qu'au fur et à mesure que la situation libyenne, et je vous rappelle que la Libye, même si elle n'est plus en guerre civile intense, puisque les échanges de feu se sont arrêtés en juin 2020, il peut y avoir justement un retour vers les hostilités. Et si un retour important se fait donc dans la violence dans les semaines qui viennent, chose que je pense être presque inévitable malheureusement, eh bien on pourrait assister à des configurations où les atouts russes eh bien, soit déployé pour en aide d'une manière tout à fait ponctuelle, toujours pour la même faction, la faction du maréchal Haftar, qui aujourd'hui est directement allié, associé au Premier ministre Fethi Bachara, qui a le soutien de l'Égypte, qui a le soutien de la France, une certaine sympathie du département d'État américain, et ainsi de suite. Donc voilà, la situation libyo-libyenne est inquiétante, et là-dedans, il y a pour les Russes de se faire, d'être actifs à nouveau. Rien de tout cela n'appartient au passé. Je voulais encore, peut-être, dire très rapidement, il me reste 4 minutes, parler de toutes les questions d'argent. Il y a eu un moment donné où le Pentagone a publié comme ça une phrase tout à fait juste. À l'époque, c'était à la fin 2020, le Pentagone a dit, voilà, nous pensons qu'une partie de la mission russe en Libye est financée par les Émirats arabes unis. Cette assertion est tout à fait factuellement, était à l'époque entièrement correcte. Mais ce qui est important de noter ici, c'est que les Émirats sont beaucoup actifs aujourd'hui. Et financièrement, je serais extrêmement surpris si je devais entendre que, effectivement, les Émirats continuent à financer la présence russe en Libye. La présence russe en Libye, ce n'est pas quelque chose que les Russes veulent abandonner. Il y a une trop grande utilité dans cette présence sur ce territoire si pratique, si convoité historiquement par les Russes. Je vous rappelle que la Russie de Staline l'avait demandé en 1945. Il y avait toujours cette bonne compréhension de l'utilité logistique, l'utilité militaire, stratégique vis-à-vis de l'OTAN d'être dans ce territoire précis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que du point de vue du business model, finalement, les Russes n'ont jamais trouvé un business model qui soit satisfaisant, qui soit ferme, qui soit stable, qui fasse qu'ils soient qu'ils ne soient pas dans le rouge. Je pense aujourd'hui, il y a un certain qui le suggère, il y a un phénomène d'endettement qui se fait du point de vue du maréchal Haftar par rapport à cette présence russe qui, je vous le rappelle, je l'ai dit dès le début, est absolument indispensable pour la survie du maréchal Haftar. Et ce qui est intéressant quand on commence à remarquer tout cela, c'est que Primo, la présence militaire des Russes en Libye est absolument essentielle pour la survie de ce dispositif militaire qu'est la soi-disant armée nationale libyenne de Haftar, et que cet même objet sécuritaire, eh bien, son effondrement est absolument impensable pour des pays comme l'Égypte, mais aussi pour les États-Unis. Alors, je ne parle pas de la France, évidemment, la France pense comme l'Égypte, la France a tendance à penser comme un pays arabe conservateur, hein, finalement, sur ces questions-là. Je vous rappelle que la France a toujours été du même côté que les Russes, hein, depuis 2014, dans le contexte libyen. Mais même les États-Unis, c'est plutôt considéré comme impensable que de laisser le seul dispositif sécuritaire qui couvre la moitié orientale de la Libye s'effondrer. Donc, c'est-à-dire qu'on n'aime pas Haftar, on n'est pas d'accord avec son comportement, on n'est pas d'accord avec ses pratiques illicites et criminelles, on ne trouve pas qu'il tienne particulièrement bien les grandes villes de l'Est, mais on ne veut pas concevoir d'un effondrement de cet acteur. Donc, qu'est-ce que c'est? Que pour l'instant, il y a une certaine ambivalence que l'on comprend à partir du moment où on remarque un petit peu les points que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que les Américains, eh bien, ils aimeraient bien que Haftar soit payé par Tripoli, en sachant pertinemment qu'une partie de cet argent-là va immanquablement, inévitablement, atterrir dans les caisses de Wagner. Oui, ça paraît être contradictoire, mais c'est la réalité dans laquelle on est. Je voudrais dire que, effectivement, s'il y a une offensive agressive, quelque chose de militaire, quelque chose de méchant, qui soit tenté par la faction Haftar sur les forces de Tripoli, les forces qui sont plus ou moins associées à la présence militaire turque, là, il y aurait un changement de comportement de la part des Américains. Là, d'un seul coup, s'il y a un retour vers la guerre qui est causé par le comportement de Haftar, il y aura une tendance au niveau de il y aura une tendance à dire, bon, on va saisir cette opportunité pour en finir avec ces plaisanteries, pour venir nettoyer un petit peu ça. Mais si Haftar arrive à éviter un mouvement brusque de cette sorte, eh bien, on peut tout à fait avoir cette conversation le 31 décembre de cette année, avec les quatre bases que je viens de mentionner qui sont encore russes, avec Haftar qui continue à soit payer à Wagner, soit à accumuler une dette vis-à-vis d'eux, et avec un silence comme celui qu'on peut constater aujourd'hui de la part des États-Unis. Voilà, merci beaucoup.
Merci
Merci.
infiniment, Jalel. Je prends la parole avec l'aval des plus hautes autorités, juste pour te demander une petite clarification factuelle, Jalel. Pourquoi dis-tu que les Syriens sont en quantité négligeable?
Non, j'ai pas dit qu'ils étaient en quantité négligeable, Yvan. Je dis que non, non, leur nombre a atteint 2500. Le nombre y est, c'est plutôt de la chair à canon. C'est-à-dire que dans tous les moments un petit peu délicats du conflit, ces Syriens étaient déjà là, hein, ils sont là depuis à peu près janvier 2020. Ils n'ont jamais joué un rôle clé. Ils ne sont pas particulièrement talentueux, ce sont des rebelles réconciliés, ce sont des sunnites, ils ne savent pas bien combattre, ils sont là plutôt pour les trous. Donc moi, j'ai pas trop apprécié qu'il y ait autant d'articles qui d'un seul coup comptent ces Syriens comme des ressources aussi importantes que les Russes. Non, c'est clairement pas le même niveau d'importance. Il est toujours bon d'avoir ce focus sur le personnel russe. C'est ça qui compte aux yeux de Moscou. C'est ça qui compte aux yeux de Haftar. C'est ça qui compte aux yeux des ennemis pro-turcs, c'est-à-dire le camp de la Libye du Nord-Ouest. Et les Syriens n'ont jamais joué un rôle important. Donc c'est pas maintenant qu'il faut commencer. Même pas maintenant qu'ils commencent à partir, ces Syriens. Donc leur départ, pour moi, est un non-événement.
Merci, Jaël, merci Yvan pour la question. Alors malheureusement, on a fait tout ce qu'on a pu, mais l'une de nos intervenantes, Yelena, qui nous écoute, hein, ne pourra pas intervenir. On a un problème technique qui va l'empêcher d'intervenir. Mais nous avons deux autres intervenants. Alors si on peut faire assez court, mais je vais passer la parole. Je vais commencer par Delina. Est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez essayer avec votre micro?
Merci aussi. Je voulais dire quelques mots sur ce qui se passe au Niger, parce que ce qui se passe au Mali a eu évidemment des réverbérations ici. Tout récemment, le président de Niger, Mohamed Bazoum, a affirmé dans un entretien le 18 mai pour le journal La Croix, et je cite, Je ne veux pas insulter mon armée, c'est pourquoi je ne louerai pas les services des Européens qui viennent faire de la guerre à notre place. ce qui s'est passé avec Wagner au Mali s'y avérait est très inquiétant. Et donc, je fais lien avec ce que Henrika venait de dire. Les Européens ont été souvent critiqués au Mali pour faire que des formations et de l'accompagnement. Ici, dans cet entretien, Bazoum, comme stratégie politique, a choisi de passer un message assez fort en mettant tout accompagnement ou ce qu'il appelle faire la guerre à notre place dans le même plan. Donc, Europe et Wagner, et par Europe, j'imagine l'Union européenne, mais aussi l'accompagnement, l'aide bilatérale, excusez-moi, et Wagner ne seront pas appelés à se battre au lieu de l'État nigérien. Donc, ni l'Europe. Au discours de cadre en février, que Bazoum avait fait en février dans le pays, il faut dire que le président a demandé aux Européens d'être présents dans le pays et de faire plus d'efforts au Sahel. Donc, c'est deux audiences différentes avec un message légèrement différent. Et c'est important de dire aussi que Bazoum n'a pas de grands intérêts à avoir Wagner ici. Toute l'aide sécuritaire de l'Union européenne, mais aussi l'aide bilatérale de pays européens, va tomber des prochains mois et années ici au Niger, je trouve. Et donc, c'est un message assez fort et c'est un message assez public. Voilà.
Merci Delina pour son son sur le Niger, effectivement, c'était intéressant. J'en profite, je passe tout de suite la parole à John.
Oui, merci. Vous m'entendez?
C'est bon.
Oui, donc je pense que Enrica fait un très, très excellent résumé de celui qui passe en RCA maintenant. Donc, celui qui m'intéresse maintenant, c'est la question que Tatiana a posée. On avoue que, et comme un homme qui était en RCA à Benghazi récemment, j'ai une question pour Jalil. Si celui qui on avoue à Moura le massacre, ça c'est possible en Libye, parce que celui qui m'intéresse maintenant, c'est que on avoue que les groupes Wagner commettent des violations de droits de l'homme où ils opèrent, mais en même temps, ils sont toujours différents. Ils sont différents en Libye et en RCA et maintenant en Mali. Donc, mon question, c'est seulement à Jalil, c'est lui qu'on envoie à Moura, c'est possible en Libye ou non?
Personnellement, John, je ne pense pas qu'un tel massacre soit particulièrement probable dans le contexte libyen. Je rappelle que la principale contribution des Russes en termes de violation des droits de l'homme, c'est ces quantités terribles de mines antipersonnelles qu'ils ont laissées dans le sud de Tripoli. Ils ont fait la même chose sur Sirte. Et ça, déjà, c'est des dizaines et dizaines de civils qui meurent des mois et des mois après leur départ à cause de ça. Il y a eu, je pense, aussi un certain nombre d'incidents dont on n'a pas toujours entendu parler, où des Libyens s'approchent trop près des bases russes et finissent par faire l'objet d'attaques, voire être tués. Si de telles violences ont eu lieu, et elles ont eu lieu à plusieurs reprises, eh bien, personne ne peut dire quoi que ce soit aux Russes, mais pour l'instant, pour des raisons, je dirais, plutôt géographiques, dans la configuration actuellement actuelle de la Libye, les Russes sont plutôt en retrait de tout. Ils sont en retrait des zones très peuplées. Et quand ils sont assez proches des parties qui sont démographiquement assez denses, ce sont plutôt des zones qui sont calmes. Par exemple, je pense à Ouadan, à Sokhna, Jofra. Donc aujourd'hui, même si la situation se détériore un petit peu, on n'aura toujours pas d'incident comme ça. En revanche, si pour une raison ou pour une autre, il y a effectivement une vraie remise en question du système Haftar en Cyrénaïque et qu'on se retrouve avec une fracturation vive du tissu social dans des villes comme Ajdabiya et dans les villes comme Benghazi, là, on se retrouvera dans une situation urbaine qui commencera à ressembler à la Centrafrique, d'autres théâtres. Et là, on pourrait, là, tout deviendrait possible, parce qu'encore une fois, je pense que les Russes ne partiraient pas si les choses se détériorent. Généralement, quand les choses se détériorent en Libye, c'est une bonne nouvelle pour eux, parce que c'est toujours une opportunité pour devenir encore plus indispensable pour une faction ou pour une autre. Et là, avec l'opacité qui règne dans ces zones-là, on pourrait assister à des exactions encore plus abusives qu'à l'habitude. Voilà.
Ok, moi, ma question, c'est demander aux intervenants si la France, principalement, n'est pas responsable de cette présence de Wagner et de la Russie, que ce soit en Libye ou au Sahel, avec l'agression de la Libye et le chaos qui est survenu après, avec le départ de Kadhafi et l'effondrement de l'État libyen, qui a été causée par cette agression française soutenue par la communauté internationale. Est-ce que la France n'est pas responsable de ce nouvel ordre mondial et surtout qui est visible en Afrique, en Libye et au Sahel?
Il s'agit pas du tout de défendre la France. La plupart du temps, quand j'écris sur le rôle de la France dans ce théâtre, je suis perçu à juste titre comme étant une voix plutôt critique. Mais je pense que c'est vraiment ce serait une leçon, une lecture trop simpliste que de dire cela. D'abord, je pense que l'intervention en 2011 n'était pas une décision française, c'était d'abord une décision américaine, et la France a pu jouer un rôle aussi visible, aussi bruyant et aussi zélé, surtout parce que la France savait qu'une bonne partie de Washington souhaitait cette intervention militaire en Libye. Sans savoir cela, on aurait assisté à un scénario beaucoup plus de la part de la France. Donc ça, c'est très important d'avoir une lecture qui dissèque vraiment les rôles des uns et des autres. Surtout aussi, il faut reconnaître que la révolution libyenne est un mouvement libyen. C'est-à-dire que c'est pas les événements de 2011 n'ont pas commencé par une intervention étrangère, ça a commencé d'abord par un vrai soulèvement, un soulèvement autant risqué dans plusieurs villes de la Libye à l'est et à l'ouest. Ce n'est pas un événement qui a été décidé quelque part à Paris. Ça a été d'abord vécu d'une manière très organique, très viscérale par des citoyens libyens. L'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que l'invitation de Wagner en 2018 en Libye n'a pas été décidée par les Émiratis, a été sans doute approuvée, encouragée, perçue d'un bon œil, mais n'a pas été déclenchée par les Émiratis et elle n'a pas été déclenchée par la France. Elle a été déclenchée par la famille Haftar. C'était en grande partie le gendre de Haftar qui a beaucoup insisté là-dessus et les gens savaient dès le début, les Libyens savaient que en se frottant aux Russes, ils étaient en train d'enclencher un ce qui allait s'avérer irréversible. Ils le savaient, hein. Mais ils l'ont fait parce qu'ils en avaient besoin. Ils pensaient gagner, etc. Ils étaient pressés. Ils pensaient qu'il fallait mettre tous ses atouts de son côté et ainsi de suite. Donc il y a une impatience d'abord libyenne et non pas étrangère. Dans ce moment assez fatidique en 2018 où Wagner est apparu. Voilà.
Merci beaucoup, Jalel. Enrica voulait aussi répondre à cette question.
Oui, merci Ivan. Même si Kanfari n'a pas cité expressément la Centrafrique, je pense que la RCA, c'est un cas assez intéressant sur ces questions parce que. En fait, en 2017, quand les Russes ont fait leur première livraison d'armes à la Centrafrique, c'était justement sur suggestion de la France. Donc, dans un moment 2017-2018 où la France et les autres pays européens commençaient à rentrer dans une période un peu difficile au niveau de la crise centrafricaine parce que les solutions proposées commençaient à ne pas marcher. Au niveau des gouvernances, rien n'avait amélioré malgré l'élection de 2015-2016 et l'instauration d'autorités légitimes avec le président Touadéra. Donc, dans cette période où, dans une période où l'État centrafricain était de nouveau très exposé aux attaques des groupes armés et les réponses n'arrivaient pas par les partenaires européens qui demandaient aussi au gouvernement centrafricain des garanties de gouvernance et des garanties de respect des droits de l'homme. L'État centrafricain a décidé de se tourner vers l'IA, que il semblait donner sans trop demander. Donner des armes, donner des instructeurs, sans demander pas de la redevabilité comme, comme les acteurs occidentaux font régulièrement. Et la première suggestion, justement, par la livraison d'armes dans ce sens, venait justement de la France. L'avantage et ce qui a amené les Russes à avoir toute cette popularité en Centrafrique, c'était, à mon opinion, aussi les discours qui ont fait au président Touadéra, aux autorités et aux Centrafricains en général. Un discours qui est extrêmement simple, extrêmement direct au niveau de libération, au niveau aussi d'un nouveau panafricanisme, si vous voulez, contre la colonisation, le néocolonialisme des Européens ou des Français ou des Occidentaux en général, et qui appelle les Centrafricains à des solutions simples contre des problèmes qui perdurent depuis des années dans les pays. Tout ça comparé avec les discours de construction de la paix, de l'État, restauration de l'autorité, etc., qui viennent des Occidentaux, a évidemment contribué au succès des Russes en Centrafrique. Et je vais me joindre à ce qui a dit Jalel avant. Les mêmes rumeurs sur les départs massifs des Wagner depuis la Centrafrique pour être redéployés en Ukraine n'ont pas été confirmées nulle part. Donc, ça aussi a été reporté dans la presse, aussi française, pas seulement américaine, mais aussi française, et n'a pas eu de confirmation sur le terrain. Les mercenaires de Wagner restent autour de 1 500 au plus, entre 1 500 et 2 000 effectifs sur le terrain, et leur stratégie n'a pas changé.
Merci beaucoup, Enrica. Donc, on a jusqu'à 22h30, hein, encore 25 minutes pour converser ensemble. Et j'ai reçu une requête de la voix de Mopti pour poser une question à nos intervenants. C'est à vous. Bonsoir, la voix de Mopti.
Bonsoir tout le monde. Merci pour la parole donnée. En fait, moi, je vais poser une question, mais une question globale. En fait, mon nom c'est Yacouba Dramé, je suis derrière la voix de Mopti. Donc, quand je suis à Mopti ville au centre au Mali, par rapport à l'intervention de Wagner, je peux le dire clairement, nous voyons ici à Mopti la présence des Russes. Mais moi, ma question c'est par rapport à la bataille de l'opinion publique. Généralement, ici, on pense que Wagner est en train d'intervenir contre les djihadistes. Ici, nous voyons le problème du côté des djihadistes, c'est qui tuent, qui essaient de détruire des villages, voire même des disparitions forcées. Mais dans la pratique, on a tendance à avoir au sein de l'opinion publique, surtout européenne, et ils pensent que Wagner, c'est plutôt le problème. Qu'est-ce qui fait qu'ici au Mali, on pense que Wagner peut être une partie de la solution dans la lutte contre le djihadisme, mais qu'en Europe, on voit en perspective comme si l'Europe est en train de perdre le Sahel, l'Europe est en train de perdre le Mali. Mais on ne dit jamais que l'Europe est en train de perdre la guerre contre le djihadisme parce que les Européens sont là, sont venus, ils sont en train de former l'armée malienne, même ils sont sur les terrains, ils sont en train de se battre contre les djihadistes. Mais le fait que Et Wagner est arrivé, on voit que on est en train d'oublier plus dans le discours les djihadistes, mais plus on parle de Wagner, des exactions de Wagner, des tueries par Wagner, mais ce fait par les djihadistes, on voit que dans la presse européenne, on a tendance à oublier ça. Qu'est-ce qui fait ça? C'est ça ma question. Merci.
Merci beaucoup pour cette question sur le hiatus entre les perceptions maliennes et européennes de la présence de Wagner. Qui souhaite répondre à cette question?
Oui, moi je
Tatiana, oui,
peux.
et ensuite Enrica.
Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette question super intéressante et je pense qu'elle est très vraiment pertinente parce que il y a effectivement énormément de confusion, énormément de différentes alternations des faits, de leurs interprétations dans les chaînes d'information portées soit donc par les Russes, si on peut le dire comme ça, soit par l'Occident. Je pense qu'au Mali, ça se sent d'une façon exacerbée, parce que même les chaînes de communication françaises, elles sont connotées négativement, j'imagine, alors que les chaînes Sputnik ou bien d'autres comme RT, ils sont vus différemment. Mais votre question, il est très compliqué et je pense que si je me permets, vous avez pointé un aspect très important et très très délicat à discuter actuellement, en disant que actuellement on parle beaucoup plus de Wagner que de djihadistes eux-mêmes au Mali. Et je me permets aussi de dire que c'est effectivement ça reflète la complexité de cette guerre informationnelle quelque part. Moi, je ne suis pas en train de prendre une position dans ce contexte, mais je suis contente que vous avez soulevé cette question. Voilà, je vais m'arrêter là, Arika, c'est à toi. À vous, pardon.
Merci Tatiana. Question effectivement assez difficile. Enrica, c'est à vous. Ensuite Rémi.
Oui, merci Ivan et merci Tatiana. Non, je voulais juste compléter ce que Tatiana disait par rapport encore une fois à l'expérience centrafricaine. Évidemment, c'est un choix tout à fait légitime de choisir des partenaires sécuritaires pour mener la lutte contre, que ce soit les groupes armés comme en Centrafrique, les djihadistes. Au Mali, ça c'est même pas en discussion, c'est l'expérience démontre que voilà, des États souverains peuvent prendre dans toute leur capacité des décisions, même difficiles, quand ils sont dans une situation compliquée, comme l'État malien ou l'État centrafricain, ça c'est pas en question. Les problèmes de Wagner, qui je pense qui est en train aussi de cette discussion, c'est pas l'effet que Wagner soit là ou soit en train d'aider un État au lieu de la France ou au lieu d'autres partenaires. Le problème de Wagner, c'est que la présence de ces mercenaires, de ces sociétés privées, comporte aussi des conséquences. Les conséquences sont grosso modo sur trois ordres de problèmes. Les violations des droits de l'homme contre la population civile. Ça peut être, comme on a dit en Centrafrique plusieurs fois, un effet collatéral de la guerre. Les guerres sont sales, les guerres aussi ont des morts civiles, donc on accepte qu'il y a des violations des droits de l'homme contre les Maliens, contre les civils maliens, parce qu'on veut gagner la guerre. Oui, mais on met où la limite à ça? Et c'est une question très importante que les Maliens devraient aussi se poser en ce moment. Le deuxième ordre de problème est relatif au fait que l'armée malienne doit aussi construire sa relation avec les forces de Wagner déployées sur le terrain. J'ai apporté l'exemple de la Centrafrique parce que maintenant l'armée centrafricaine travaille à côté de Wagner depuis 2018. Dans certains cas, depuis 2020 dans la plupart des pays. Les relations sont en train de se dégrader. Se dégrader pour différentes raisons, ou par différents facteurs, qui peut-être au Mali ne vont pas se répéter, mais c'est quelque chose qui aussi doit être considéré. À un certain moment, à cause de leur présence, les mercenaires de Wagner pourront aussi comporter des changements dans la structure, une disgrégation des conséquences au niveau d'ordre interne de l'armée malienne. Et le troisième ordre de problèmes que je pense qu'il faut considérer dans ces choix légitimes de choisir les propres partenaires de sécurité, c'est d'ordre économique. L'intervention de Wagner n'est pas gratuite. L'intervention de Wagner coûte à l'État malien, à l'État centrafricain, à Haftar, comme Jalal a précisé. Évidemment, les mercenaires de Wagner peuvent aussi se repayer sur ce qu'ils exploitent à l'intérieur des pays, ressources naturelles, d'autres exemples comme en Centrafrique, par exemple, sur les douanes. Mais ça a aussi un coût pour l'État. Et ça a des conséquences pour les finances de l'État, comme par exemple dans le cas de la Centrafrique, où les faits que l'aide budgétaire aussi allait directement dans les mains des Wagner a provoqué une suspension des terres par les principales entités financières et les partenaires du pays. Donc, ce n'est pas une discussion, les faits de la présence de Wagner, je pense. La chose importante, c'est de considérer les possibles conséquences de ce choix tout à fait légitime de partenaires de sécurité. Merci.
Merci beaucoup, Enrica, pour cette réponse très complète. Rémi.
Oui, je vais faire rapide pour qu'on puisse donner la parole aux autres personnes qui veulent intervenir juste. Enrica a dit beaucoup de choses que je voulais dire. À mon sens, il y a trois problématiques à l'arrivée de Wagner au Mali essentielles. D'abord, c'est la question des méthodes, notamment des exactions et des atteintes aux droits de l'homme. On a déjà eu un petit panel de ce que ça pouvait donner, notamment à Moura. Il y a la question de l'opacité. On ne sait rien, en fait, des contrats qui lient l'État malien à Wagner, et on se demande bien comment tout cela va être rémunéré, en fait. Et puis, il y a la troisième question, c'est la probable prédation, comme on a pu voir dans d'autres pays, à laquelle va pouvoir s'adonner peut-être Wagner. Mais l'intervention de la voix de moi, oubliez votre prénom et votre nom, je suis désolé, mais votre intervention, elle est essentielle, parce que moi, lorsque j'appelle des gens au Mali, il y a beaucoup de personnes qui me disent en fait, qui me disent la chose suivante, ça fait 9 ans que la France est là, ça fait 9 ans que l'Union européenne, via notamment le UTM, est là, ça fait 9 ans que la MINUSMA est là, et en fait, c'est un échec, ça n'a pas fonctionné, on a peut-être réussi à limiter la casse, mais il n'empêche que ça n'a pas fonctionné, on le voyait sur le terrain, les groupes djihadistes gagnaient du terrain. Et c'est là où finalement, quelque part, il faut entendre aussi ça. Alors, les choses sont peut-être mal faites et Wagner n'est peut-être pas la solution, n'est probablement pas la solution à cette question, mais il faut aussi rappeler pourquoi Wagner est arrivé, pour quelles raisons les autorités maliennes ont décidé de faire appel à Wagner. C'est parce qu'on est dans une impasse absolue aujourd'hui. Alors, dans cette impasse, ils font peut-être le pire des choix, peut-être. Il n'empêche qu'on se retrouvait dans cette impasse et c'est pour ça, peut-être, qu'on en est arrivé là.
Merci Rémi. Alors, j'ai bien vu qu'il y avait une requête de la part de Oumar Kébé, mais avant de vous donner la parole, Oumar, je vais lire à haute voix une question qui nous est parvenue sur le chat de Twitter et qui est adressée à Tatiana par Sagaïdou Bilal et qui pose la question suivante. Au regard des événements comme l'invasion de l'Ukraine, la Russie est-elle en mesure de pouvoir s'investir au Sahel en termes de moyens logistiques suffisants? Tatiana.
Merci pour cette question. Il est aussi difficile à répondre, mais ça dépend parce qu'on entend qu'est-ce que cela veut dire s'investir en termes de moyens. Je pense que il est difficile à prédire comment la guerre en Ukraine va se terminer, mais quoi qu'il en soit, tout ce qu'on voit déjà de la dynamique en cours, on peut imaginer théoriquement que de toute façon, comme l'une des conséquences principales, ce serait l'isolation de la Russie, ce qu'on voit déjà. Et donc, pour la Russie, l'Afrique, c'est vraiment très, très important pour exister, continuer à fonctionner, voilà, dans différents domaines. Et je pense que ce n'est pas la question pour la Russie de mesurer s'il va pouvoir s'investir ou pas, mais la Russie, elle a l'intérêt de rester. Elle a l'intérêt de rester au Mali. Jalal l'a dit aussi, elle a resté en Libye. Et c'est la raison aussi pour laquelle qu'il faut qu'on réfléchisse ce qui va se passer par la suite. Moi, je crains fort que la Russie n'aura pas les moyens de développer les dispositifs d'aide socio-économique comme a fait l'URSS par le passé. Et je crains très fort que l'image, justement ce que je disais au départ, cet imaginaire de l'URSS est utilisé actuellement dans la propagande, on peut le dire comme ça, dans les narratifs que diffuse Kremlin au Mali aussi, il est quelque part suscite peut-être de faux espoirs parce que la Russie, elle n'a pas de moyens d'investissement socio-économique comme le fait l'Europe ou comme le fait les Américains. Voilà, donc je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup. Je ne retrouve pas Oumar. Alors, j'ai une requête en revanche de Abouta. Alors, Abouta, je vais vous autoriser à prendre la parole et pendant que la connexion s'établit avec vous, voilà, c'est déjà le cas. J'allais poser une question moi-même, mais vous étiez là le premier. Donc, à vous de poser votre question, Abouta.
Assalamu alaikum. Can I speak English? Because I'm not very good speaking French. Is that okay?
Yeah, sure. I think that will work.
All right. the question that I have for people who's here, I'm from Mali, by the way, is why the U.S. is not involved of terrorism in Mali? Because I can't understand how we talk about terrorism, people who's killing people for nothing. They like pick people and just cut their head off. But the U.S., the politically, they say they are everywhere terrorism is, they're going to go there and help to get the country, get over like all these bad things that's happening in Mali. Yes, the French people was there before. But we, as a Malian, we hate them. Majoué, we didn't love very French people are not welcome in Mali. And point three. Now, U.S. is refusing to help us as people who deserve to be helped. Only thing we have is Russians. Even Russians, me personally, I don't like them. But that's only thing we have. The question that I have is why U.S. is not involved in Mali? Thank you so much.
OK, donc je vais traduire rapidement pour les non-francophones dans l'assistance. Si j'ai bien compris, parce que le son n'était pas excellent, la question que posait Abouta, c'est celle de l'absence des Américains au Mali. Alors, Abouta ajoutait qu'il y avait un rejet de la France. Alors, il l'a dit dans des termes un peu moins châtiés, mais il y avait un rejet de la France et que du coup, face aux djihadistes, on se demandait côté malien pourquoi les Américains n'étaient pas plus impliqués. Qui veut répondre à cette question?
Perhaps the American and native English speaker might be able to speak to Abouta on this. I think as the other panelists have mentioned, and as you were saying as well, I think a big issue that we've been talking about here is that the arrival of Russians and the decisions for governments to partner with Russia are not based on some sort of geopolitical preference, the U.S. and the West versus Russia, or their choice on what's happening on Ukraine. It's very much a decision that's based in low-city priorities. And I think that that's something that is consistently missed here in Washington and something that needs to be taken much more seriously, as the various speakers have been saying, on why do Russian mercenaries come in the first place? Because I think that you're right that at the end of the day, local people's security priorities, what they care about, are often what's lost in the greater dialogue on Russia and Africa.
Merci beaucoup, John. Je vais récapituler ou résumer ce que tu viens de dire. En gros, c'est que de la part de Washington, il n'y a pas forcément un grand intérêt porté à la situation sahélienne. Est-ce que j'ai bien résumé ton point de vue?
Oui, bien sûr. Merci.
Ok, merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question à l'ensemble des panélistes qui concerne une réflexion qu'a faite Célian Massé dans un article récent dans Libération, qui émettait une idée que je trouvais très, très intéressante sur le fait que Wagner, ce n'était pas juste des gros bras déployés sur le terrain pour tuer des djihadistes. C'était ce que Célian appelait un système total, c'est-à-dire un prestataire de service qui s'occupe pas que de la guerre. Alors, comme le disait Rémi, hein, on ne sait pas tous des conditions commerciales de la présence de Wagner en Libye, en République centrafricaine ou au Mali. On suspecte beaucoup de choses, mais est-ce que dans la prestation qu'offre Wagner aux pays qui l'invitent, est-ce que l'écosystème informationnel est compris?
Peut-être que je peux commencer sur le dossier libyen très rapidement.
Vas-y, Jalen.
Le service est clairement proposé. Il est même en action. Il se déploie. Cette capacité donc du portefeuille Wagner, cette capacité à déformer le discours, à changer les perceptions, à s'occuper de raviver certaines réputations et d'en abîmer d'autres. En revanche, je précisais que la Libye, avant donc cette arrivée en puissance de Wagner, la Libye était déjà saturée en termes de budget consacré aux différentes propagandes. Il y avait déjà plusieurs millions d'euros dépensés de part et d'autre du conflit. Le pays était déjà riche. Les intervenants extérieurs, que ce soit le Qatar d'un côté ou les Émirats de l'autre, étaient aussi des acteurs absolument saturés d'argent, dont beaucoup allaient à des fins de propagande et de manipulation. Donc finalement, les Russes, en termes de déformation et de désinformation, ils se sont plutôt concentrés sur le fait de remettre Kadhafi au goût du jour, de redorer le blason du kadhafisme d'une manière générale et permettre un petit peu le retour du fils Slam. Donc, c'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est que oui, effectivement, le service était proposé. Je trouve que la remarque de Célian est tout à fait appropriée et juste. Il se trouve cependant que le théâtre libyen était déjà sursaturé en termes de désinformation. Donc, finalement, la différence s'est faite juste pour essayer d'aider un petit peu le fils de Kadhafi à revenir.
Merci beaucoup, Jalel. Enrica, et ensuite, on a une requête de la part de Ogino.
Oui, merci. Très, très, très rapidement. Les cas de la Centrafrique, c'est exactement l'opposé, dans le sens que l'arrivée des Russes depuis 2018 a été accompagnée par ce qu'on appelle soft power, par un soft power très, très puissant. L'exemple, c'est les cours des Russes à l'université de Bangui, la maison de culture que les Russes ont ouvert. Tout ce qui est campagne de information, voire désinformation sur les réseaux sociaux, énormément de trolls sur Facebook, l'achat des médias centrafricains, etc., etc., sans même mentionner les films touristes qui a été tourné pour célébrer la victoire sur les terrains des Russes, de l'armée centrafricaine et de ses alliés russes. Il a été projeté dans le stade de Bangui pour une semaine l'année dernière avec des feux d'artifice tous les soirs et les sold-out tous les soirs. Donc, tout ça pour dire que les terrains centrafricains étaient très propices à aussi tous ces types de propagande et d'information, et que ça continue justement avec ces discours de néo-panafricanisme qui insiste beaucoup et qui essaie de toucher un peu de convaincre les centrafricains malgré toutes les informations qui arrivent de la périphérie et du terrain où les Russes sont déployés. Merci.
Merci infiniment, Enrica. Bon, on pensait avoir une autre question de la part d'Ogino, mais il a disparu des écrans radars. Auquel cas, eh bien, il me reste à saluer tout le monde et à repasser la parole à Michael Poron en tant que maître de cérémonie de cette session. Merci à tous.
Merci Yvan, merci à tous d'avoir été présents. On va tenir on va tenir notre parole et couper à ce space Afrique 21. Merci encore à tous les intervenants, Enrica, Jalel, John, Tatiana. Merci à tous, j'espère que j'oublie personne. Et puis quand même Yelena qui malheureusement n'a pu intervenir, Yelena Parak hein, qui n'a pu intervenir mais qui a écouté le débat. Merci à toutes vos questions. Je rappelle que voilà, vous pouvez aller faire un tour sur le site d'Afrique 21. Bien sûr, on suit un petit peu aussi ces affaires de Russes en Afrique. Et n'hésitez pas à nous soutenir, à faire voilà, on continue de se développer. Et encore merci à tous pour votre présence ce soir et à très bientôt. Au revoir.